I use a word, it means just what I choose it to mean.
Oui, mot de passe, j'aime bien l'expression.
Les mots ont un sens.
Les mots ont un sens.
Les mots ont un sens.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
The yes needs a no to win. Again, the no.
Et ça ne signifie rien.
Il y a une instrumentalisation de tout ce que je dis.
Avec moi, vous parlez de choses sérieuses.
Mot de passe, un jeudi sur deux, 20h, Radio Campus Paris, sur le 93.9.
Il y a le métissage racial, c'est-à-dire le mélange des races, physiquement.
Qu'est-ce que c'est les races? Parce que ça, on est pas race.
Et si, s'il n'y a pas de race, il n'y a pas de métissage.
Ah non, ouais. Donc peut-être que
donc,
le deuxième
métissage. Il n'y a pas de question, on arrête, on s'en va.
Non, parce qu'on parlait de deux métissages, donc
oui.
Peut-être que le deuxième existe.
Le deux, oui.
Parce que pour vous, Rokhaya, les races n'existent pas.
Pas. J'ai le sentiment que, à la sacralisation des races de la période nazie et précédente, a succédé la négation des races. Et c'est, d'après moi, aussi ridicule l'une que l'autre. C'est, que ça veut dire que ça n'existe pas. On voit bien que ça existe.
Le débat sur la race est assez original, si l'on compare le cas français à ce qui se passe ailleurs. Alors, évidemment, je ne parlerai pas des États-Unis où le terme de race est très communément utilisé. En France, on est particulièrement réticent. C'est lié à la fois à l'héritage républicain depuis la Révolution française, où l'on est méfiant à l'égard de particularités individuelles. On pense le citoyen dans une forme d'abstraction politique, débarrassé en quelque sorte de caractéristiques physiques ou même de choix culturels ou religieux. Donc il y a ce fondement républicaniste qui est méfiant à l'égard des différences finalement.
Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mot de passe, l'émission qui passe les mots en revue. Longtemps, le mot « race » fut interdit, tu, effacé. On a même prétendu plusieurs fois l'enlever de la Constitution. « Race » était à la fois un mot plein d'excès et le mot de trop. Pourtant, on l'entend de nouveau, le mot est redevenu à la mode, mais il ne sort plus nécessairement des mêmes bouches. Dans les extraits qu'on vient d'entendre, Éric Zemmour, aussi bien que Pape Ndiaye, l'emploie volontiers. Et Rokhaya Diallo, qui faisait face au premier et récusait le terme à l'époque, a depuis produit un podcast fièrement intitulé « Kif ta race ». Alors la race, le mot de trop ou le mot qui nous manquait, un mot désuet ou brûlant d'actualité, la race pourquoi faire, la race quoi en dire. On en parle avec Ouria Boulteja, bonjour.
Bonjour.
Vous vous présentez comme une militante décoloniale, vous êtes la cofondatrice du Parti des indigènes de la République, que vous avez quitté depuis, et vous publiez « Beauf et barbare » aux éditions La Fabrique. Avant d'entrer dans le détail de votre livre, je commençais par cette question toute simple, Ouria Boulteja. Est-ce que vous aussi, comme Pape Ndiaye, comme Rokhaya Diallo, comme Éric Zemmour également, vous employez le mot « race » ?
Ah oui, je l'emploie. Je l'emploie depuis le début des indigènes de la République. Non pas selon l'acception d'Éric Zemmour, mais selon la manière dont Rokhaya Diallo, elle, l'entend. On ne fait pas partie de la même famille politique. Je fais partie de ceux qui pensent que la race sociale existe comme produit de l'histoire. Donc oui, de ce point de vue-là, je l'emploie parce que la race, comme produit de l'histoire et comme je l'appelle moi une technologie d'exploitation, eh bien, elle existe et elle a ses effets. Voilà.
Mais du coup, donc elle a une effectivité, la race, elle a des effets. Mais est-ce que le fait de continuer d'employer ce mot à connotation naturalisante ne crée pas une certaine confusion?
Non, je ne crois pas, parce que je ne crois pas que les mots ou que les situations soient naturalisantes en soi. C'est les politiques concrètes qu'on mène qui naturalisent ou pas. Soit qui naturalisent, soit qui dénaturalisent. En réalité, il y a des politiques racistes qui naturalisent la race et il y a des mouvements antiracistes qui tendent à l'abolition de la race. Vous voyez, donc en fait, ça dépend qui le fait. Alors effectivement, ce que je comprends qu'on ait peur de ce mot dans le sens où des États ont naturalisé la race. Les États d'apartheid ont naturalisé la race, les États-Unis ont naturalisé la race, c'est-à-dire on produit un phénomène qui a produit de la discrimination, voire la mort. Donc effectivement, ça peut faire peur, mais en fait, ce n'est pas parce que la race a été instituée par des états raciaux, j'en parle dans mon livre, qu'il ne faut pas la voir pour ce qu'elle est, à savoir un phénomène qui discrimine et qui finalement produit des humanités inégalitaires. Donc de ce point de vue-là, plutôt que de l'ignorer, il me semble plus intéressant, et même politiquement plus intéressant, plus efficient de la regarder en face.
Alors, on va revenir sur l'efficacité de l'emploi de ce mot race chez vous, mais en même temps que vous vous armez de ce mot, vous réarmez et relégitimez l'emploi de ce mot par vos adversaires, dans l'acception que vous critiquez et que vous combattez, même fermement.
Je ne suis pas d'accord, parce qu'en fait, la race existe à l'insu de notre plein gré. C'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'elle n'est pas efficace et qu'elle n'existe pas dans le réel. En fait, partout où il y a de la discrimination raciale, il y a la race. La question, c'est pas de... La question, c'est juste de savoir si on assume de le reconnaître. Et le reconnaître, c'est une manière de dépasser le phénomène. Parce qu'en fait, tant qu'il n'y a pas reconnaissance, il n'y a pas de lutte appropriée pour la combattre.
Et vous ne souscrivez pas à l'idée selon laquelle, je ne sais plus quelle est l'expression en anglais, mais il faut être aveugle à la race.
Aveugle,
colorblind. Vous ne souscrivez pas à cette...
Il ne faut surtout pas être colorblind, parce que tant qu'on l'est, on ne comprend pas les mobilisations de ceux qui la subissent et les revendications de ceux qui la subissent. Parce que la race, en fait, elle est subie par tous ceux qui vivent la discrimination raciale, précisément, et l'exclusion raciale. Et lorsqu'ils s'en plaignent, ceux qui sont colorblind disent « Mais on ne peut pas vous croire !» parce que nous vivons dans une société où on est tous des citoyens égaux, où l'idéologie dominante, c'est l'universalisme. Nous sommes tous égaux et nous vivons dans une société universaliste qui ne connaît pas la race, qui ne connaît pas le genre. Or, rien n'est moins vrai. Et donc, en fait, cet aveuglement ne fait que pérenniser l'existence de la race, précisément.
En même temps, quand on le dit, généralement, ceux qui le disent ne le disent pas comme un état de fait, mais plutôt comme un idéal, une utopie mobilisatrice.
Ceux qui disent quoi ?
Ceux qui disent précisément, il n'y a pas de race, il n'y a pas de distinction de race, il n'y a pas de distinction de genre, tout le monde est égaux en droit et en dignité.
Oui, sauf qu'il se trouve que ceux qui le nient sont ceux qui bénéficient de la structuration raciale de la société. Alors pour eux, ne pas la combattre sur le présent et viser... un idéal qui n'existe pas, en tout cas qui n'est pas effectif. Et oui, c'est une position de confort. Mais il y a ceux qui la subissent aujourd'hui et maintenant et qui constatent que l'idéal qui est partagé par ceux qui nient la race, eh bien, n'est pas effectif, en fait. Donc, la problématique réelle, c'est qu'il y a un tort racial, il y a des discriminations raciales et que celles-ci sont juste effectives et qu'elles abîment les gens. Voilà. Elle participe de la négation de l'humanité d'une partie des citoyens de ce pays.
Alors, très bien. Rentrons donc dans votre définition de la race, qui est une définition donc résolument politique. Vous définissez la race comme, vous l'avez évoqué tout à l'heure, une technologie d'organisation de la société, comme d'ailleurs le genre et la classe. Qu'est-ce que c'est exactement qu'une technologie d'organisation sociale ?
C'est un moyen que se sont donné les élites, et plus exactement les classes dominantes capitalistes, pour structurer la société et obtenir un maximum de profit dans l'exploitation de la masse des gens qui viennent travailler. Alors, il y a eu une différenciation qui s'est faite dans l'histoire. Il y a ceux qu'on a exploités gratuitement, donc les esclaves, qui sont la catégorie sociale qui a été... réduite, dont l'humanité a été complètement niée.
Vous revenez longuement sur la controverse
de Valladolid. Donc je remonte effectivement à l'époque de la découverte, de la dite découverte des Amériques, donc à la fois du début de la traite atlantique qui a mis en esclavage des Africains et au génocide des autochtones. Donc pour moi, le début de l'institution de la race, c'est à ce moment-là, c'est 1492. Je dis bien le début. Ça ne veut pas dire pour moi, parce que pour moi, le racisme a une histoire, hein, précisément parce que la race n'est pas un phénomène naturel. Hein, et donc, la race a bien été instituée et que pour cela, il a fallu du temps.
Oui, là,
je
vous
prends 1492 comme point de départ symbolique, oui. Mais pour autant, je pense que le racisme comme structuration de la société n'existait pas encore. Il a fallu... 100,
les États
200,
modernes.
300 ans, il a fallu l'émergence des États modernes pour que la race ait une effectivité à la fois politique, institutionnelle et sociale.
Vous dites que les États modernes ont accouché de la race, comme ils ont créé les blancs, les catégories de blancs, de non-blancs.
Tout à fait.
Dans une de vos interventions, vous dites que ce livre est né d'une suggestion de votre éditeur Éric Hazan, qui vous avait proposé de faire un livre sur le racisme structurel, mais l'idée ne vous emballait pas trop. Alors, de cette réticence initiale, comment en êtes-vous arrivé finalement à ce livre ?
Alors oui, vous avez raison, effectivement. Je vais faire un petit historique de l'émergence de l'antiracisme politique, parce qu'en fait, depuis environ 2005, un certain nombre de mouvements dirigés par des personnes issues d'immigration postcoloniale, donc soit des Noirs, soit des Arabes, soit des musulmans, soit des Roms, peu importe, ont participé à l'émergence, à la création de ce que nous appelons aujourd'hui l'antiracisme politique.
Que
nous opposons à l'antiracisme moral, voilà. Qui est pour nous l'antiracisme d'État, qui est né dans les années 80 après la marche pour l'égalité contre le racisme.
Touche pas à mon pote,
Touche pas à mon pote, etc. Que nous critiquons beaucoup dans les milieux de l'antiracisme politique, parce qu'ils ont donné au racisme une définition qui pour nous est fausse, parce que dans l'antiracisme moral, le racisme, c'est le racisme est circonscrit à l'extrême droite, d'une part, le racisme ne vient que de l'extrême droite, au FN en particulier, il serait produit par l'extrême droite ou bien par monsieur et madame tout le monde, monsieur et madame Dubon par contre, c'est-à-dire en gros les classes populaires, et ce serait un sentiment qui serait une espèce de fausse conscience de soi, et à cela il faut répondre par 1. Combattre l'extrême droite, 2. Éduquer monsieur et madame Dubon. Donc en fait, c'est ça la réponse au racisme, d'où le « touche pas à mon pote », qui est finalement un geste assez paternaliste qui vient d'un blanc qui serait antiraciste et qui parle à son frère blanc qui lui serait raciste et lui dirait « ne touche pas à mon pote ». Donc en fait, c'est à la fois un acte paternaliste, mais qui finalement réduit le combat du racisme finalement entre blancs. C'est les blancs qui vont... entre eux, mettre fin au racisme, sachant que celui qui le subit est un espèce d'acteur de seconde zone, ou même un figurant qu'il s'agit simplement de protéger. Alors, dans l'antiracisme politique, on passe à un autre moment de l'histoire de la lutte antiraciste, où là, ce qui est mis en avant, ce n'est pas tant l'extrême droite ou monsieur et madame Dupont, que l'État, comme principal producteur du racisme. Parce que pour nous, le racisme est quelque chose de structurel. Donc, j'en reviens à mon éditeur qui me demande d'écrire un livre sur le racisme structurel ou le racisme systémique. On emploie un peu les deux formules. Comme ça, ça m'emballait pas trop, parce que je voyais pas trop ce qu'on avait de nouveau à dire par rapport à toute la production théorique qu'on a fait pendant une quinzaine d'années. Et je tombe par hasard un jour sur la formule de Gramsci, l'état intégral.
Rappelons qui est Gramsci.
Alors, Gramsci, c'est un communiste italien qui est mort dans les geôles de Mussolini et qui était un révolutionnaire, hein, et qui est surtout un théoricien de la théorie de marxiste, et qui est un espèce de continuateur, hein, de Marx et de d'autres intellectuels et militants d'extrême gauche et communistes, et qui nous laisse un héritage, ma foi, très important, dont celui d'État intégral. Et donc, je disais, je tombe par hasard sur la définition de Gramsci de l'État intégral. Et là, franchement, pour moi, c'est une véritable découverte, parce qu'il définit l'État intégral. En fait, il essaye de comprendre, lui, comment la bourgeoisie, comment la bourgeoisie fait pour garder son pouvoir, en fait. Et sa permanence. Comment expliquer la permanence de la bourgeoisie à la tête des États, voilà. Et lui, il dit, mais c'est la proposition de Gramsci, c'est de dire qu'en fait, si la bourgeoisie maintient son pouvoir, domine l'État, c'est parce que elle a créé un lien organique entre la société politique et la société civile. C'est bon, elle a su créer un lien de dépendance, d'une certaine manière, entre elle, la société politique et la société civile. Et c'est la raison pour laquelle, lui, il dit, il ne faut jamais appréhender l'État seul, c'est-à-dire l'État, à savoir l'État, ses institutions, sa police, son armée, son administration. Il dit, l'État, c'est pas que ça. Il dit, l'État, c'est ça, plus la société politique, plus la société civile. C'est ça, l'État intégral. Et en fait, c'est un...
Qui reste-t-il en dehors, du coup ?
Ah bah, il reste plus personne, précisément, parce qu'en fait, tout le monde est dans l'État. Mais il fait quand même cette distinction de méthode, entre l'État en tant que tel, parce qu'il dit bien que l'État existe, l'État et ses institutions, c'est une entité à part, mais qu'il ne pourrait pas se maintenir tel qu'il est s'il n'avait pas le consentement et de la société politique et de la société civile. Et donc, en fait, il met en évidence le lien entre les trois, et donc il dit précisément, si les classes dirigeantes arrivent et se maintiennent au pouvoir pendant 2, 3, 4 siècles, c'est parce qu'il y a ce lien entre les différentes instances de la société. Et moi, lorsque je suis tombée sur cette définition, je me suis dit, bah voilà, c'est comme ça que je vais pouvoir répondre à la demande d'Éric Azan, à savoir écrire un livre sur le racisme structurel, parce que le racisme structurel n'est rien d'autre que un lien qui unit l'État, la société politique et la société civile. Et donc, c'est la raison pour laquelle je propose dans mon livre la notion d'État racial intégral, et je dis, eh bien, la France, l'État français, est un État racial intégral, parce que si le racisme est un phénomène qui traverse le temps, qui est structurel, qui est systémique, c'est pas simplement parce qu'il y aurait un État qui produit du racisme, ce qui est évidemment vrai, mais c'est parce qu'il a le consentement de la société politique et de la société civile. Donc, ça me permet à moi de répondre à une question qui traverse les espaces militants. Qui est raciste ? Longtemps, alors il y a ceux qui disent, comme Jacques Rancière, qui disent le racisme est une passion d'en haut. Je ne dis pas que c'est faux, je dis que
c'est insuffisant.
C'est insuffisant. Et il y a ceux, longtemps, qui pensaient que le racisme, ça a été souvent une position à la fois des élites médiatiques, mais également de la gauche, à savoir que est raciste le petit peuple blanc, les beaufs, les classes populaires. Je sais pas, les gilets jaunes, voilà. Le racisme, il vient d'ici, il viendra d'en bas.
Vous dites même que l'État s'est un peu déchargé de son racisme en instrumentalisant le FN et en renvoyant toutes les passions racistes du côté des beaufs.
Du côté des beaufs, c'est exactement ça.
D'autres, les beaufs.
Et donc là, on a deux visions de qui produit le racisme. Et donc moi, la notion... Alors, je ne suis en désaccord avec aucune et je suis en accord avec aucune parce qu'à chaque fois, c'est insuffisant pour comprendre le fonctionnement réel du racisme. Et donc, la définition de Gramsci, donc celle sur laquelle je m'appuie pour définir l'État racial intégral, me permet, moi, de dépasser finalement cette contradiction. Bah, si le racisme, c'est une espèce de coproduction entre l'État, la société politique et la société civile, à ce moment-là, on répond à la question, puisque c'est à la fois une passion d'en haut, à la fois une passion d'en bas, c'est la passion de tout le monde en réalité. Et si le racisme perdure, s'il est systémique, c'est parce qu'il y a un accord tacite de toutes les parties. Alors ça ne veut pas dire un accord nécessairement complètement explicite, c'est pas ça la question, mais en fait, tout le monde participe de sa reproduction.
Oui, par exemple, vous dites que ceux que vous appelez les Blancs savent, inconsciemment ou non, qu'ils ont un intérêt...
À être blanc et
qu'ils tirent bénéfice historiquement du racisme via notamment l'impérialisme occidental.
Absolument. Donc en fait, précisément, parce qu'il faut bien aussi définir ce qu'est un blanc dans cette histoire. Les blancs, historiquement, sont cette catégorie de la société qui ne sont pas que je distingue moi de la grande bourgeoisie, parce que la bourgeoisie, c'est elle qui tire le plus de profit de cette structuration raciale. Simplement, la bourgeoisie pour maintenir son hégémonie dans le monde, parce que je parle des bourgeoisies impérialistes, donc qui appartiennent aux démocraties occidentales avancées, et en fait les pays capitalistes avancés, qui sont tous, pour la plupart, impérialistes. C'est-à-dire qu'en fait, la France est un pays impérialiste, l'Angleterre est un pays impérialiste, la Hollande l'est également, les États-Unis également. Donc en fait, pour que... les bourgeoisies, elles ont simplement fait un calcul tout à fait rationnel, c'est qu'à la fois, il fallait maintenir, il fallait empêcher toute forme de révolution à l'intérieur des États-nations, et en même temps, continuer à dominer le reste du monde. Eh bien, en fait, on ne peut pas tout faire en même temps. Et à un moment donné, il faut négocier à l'interne, en fait, avec le peuple de l'intérieur. Il faut faire des compromis. Et avec le reste, il faut l'exploiter. En fait, c'est ça, si on veut comprendre un peu le rapport impérialiste. Donc en fait, pour pouvoir continuer à dominer les pays du Sud, à les exploiter, à les piller, eh bien...
Ils ont créé la catégorie intermédiaire des Blancs.
Il faut créer une catégorie de profiteurs, objectivement, c'est-à-dire des gens qui vont accepter le deal impérialiste, condition d'en être rétribué à minima. Eh bien ça, c'est comme ça que se sont formés, d'une certaine manière, les États-nations impérialistes. La France, l'Angleterre, etc., etc. Il s'agit tout simplement d'un compromis. Et c'est pour ça que, dans mon livre, je m'attarde pas mal sur le rôle du Parti communiste, puisque, a priori, on pourrait dire que le Parti communiste est précisément l'organisation politique qui s'oppose à la bourgeoisie dans le cadre de la lutte des classes, ce qui est absolument vrai. Mais elle s'est accordée avec elle pour le maintien de la puissance française. C'est ça, un État-nation, en fait.
Oui, vous rappelez, donc ça, c'est ce que vous avez parlé au tout début de la préhistoire du racisme avec la controverse de Valladolid. Très bien, voilà. et puis ensuite, il y a toute la période du 19e, et là, vous parliez plus précisément de la fin 19e, première moitié du 20e, avec
absolument,
justement l'oscillation du côté de la gauche entre une forme d'internationalisme,
absolument,
et une forme de préférence nationale.
Une préférence nationale, parce qu'en fait, ce moment, effectivement, je parle du Parti communiste, c'est après la Révolution russe. La période qui a précédé, ça a été celle de la nationalisation du peuple français. Puisqu'en rien n'indiquait au départ, à la Révolution, rien n'indiquait que le peuple français allait se laisser nationaliser et se laisser blanchir.
Oui, en vous fait, dites qu'on, ouais, voilà, voilà. Les Français, enfin ceux qui habitaient dans ces parties-là du monde, ne se considéraient moins blancs qu'aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'en fait, cette notion n'existait quasiment pas, dans la mesure où, effectivement, le partage des richesses impérialistes n'existait pas encore. Donc pour l'instant, au moment de la Révolution française, il y avait un sentiment plutôt déjà internationalisme, en tout cas anti-esclavagiste, par exemple. L'opinion populaire, elle n'était pas favorable spécialement à l'esclavage, mais parce qu'à cette époque-là, seuls les riches s'enrichissaient, mais le reste du peuple n'était pas associé au pillage. Donc à ce moment-là, et avec, effectivement, au moment de la Révolution française, qui a mis en avant des idéaux universalistes, pour le coup, réellement fraternels, etc. Donc à ce moment-là, effectivement, les affects n'étaient pas du tout déterminés par la blanchité. Et donc ça s'est fait avec la nationalisation du peuple français. Ça s'est fait courant 18-19e, avec l'émergence des États-nations. Et les États-nations eux-mêmes émergent d'organisations, font naître
des
organisations politiques et des syndicats qui eux-mêmes sont déjà associés au crime colonial. Et à ce moment-là, ils sont déjà nationalisés et sont déjà impérialistes, en fait. Voilà. Et de fil en aiguille, ils vont effectivement perdre le caractère internationaliste qui était présent dans la Révolution russe.
Alors vous avez évoqué tout à l'heure les gilets jaunes. On a beaucoup entendu parler du racisme latent des gilets jaunes dans les médias lorsque le mouvement est né. Mais vous, au contraire, vous soulignez dans votre livre, avec étonnement, le fait que le racisme ne s'était pas ou très peu exprimé. Et vous demandez pourquoi. Alors j'ai envie de vous dire, peut-être parce que l'eau a coulé sous le pont de l'histoire et que peut-être que les Blancs ne sont plus complètement formatés par cette construction-là dont on vient de parler.
Ah, moi je dirais pas ça. Moi je dis que les Blancs d'aujourd'hui sont toujours formatés par cette histoire-là. La question, c'est qu'est-ce qui domine leurs affects au moment des Gilets jaunes? D'abord, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. D'abord, les gilets jaunes sont le produit de leur histoire. Alors qu'on me dise que tendanciellement les gilets jaunes sont racistes, je dis sûrement. Qu'ils sont homophobes, je dis sûrement. Qu'ils sont sexistes, je dis sûrement. Pas parce que eux le sont spécifiquement, mais tout simplement parce que les États-nations.
Oui, par rapport à ce qu'on vient de dire.
Produisent ce genre d'affect. Mm-hmm. Donc en fait, les gilets jaunes ne sont pas hors de l'histoire. Donc ils sont traversés par ces sentiments.
Et néanmoins, ils vous ont étonné.
Et néanmoins, ils nous ont étonnés. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un matraquage depuis une vingtaine d'années islamophobe à la télé, dans les médias. Donc on peut se dire que finalement, le petit peuple, il est tellement matraqué précisément par des campagnes islamophobes qui n'en finissent pas, qui sont récurrentes, qu'on aurait pu imaginer qu'il soit beaucoup plus islamophobe que ce qu'il en est paru. Eh bien effectivement, lorsqu'il y a eu les gilets jaunes, on se rend compte de quoi? C'est qu'ils sont probablement islamophobes, c'est pas la question, mais que ça n'est pas leur priorité. Et que la priorité du moment, c'était de protester contre l'État, contre des injustices sociales, contre Macron. Et bien là, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, les gens ne sont que les gens et qu'une partie du peuple n'est pas complètement captif l'idéologie de l'État. Ils sont pas complètement captifs ni l'idéologie de l'État, le nationalisme en faisant partie. Ils sont pas complètement captifs et qu'à un moment donné, ce qui prend le dessus, c'est la question sociale. Là, en l'occurrence, c'est la question sociale qui est apparue la plus forte. Et donc, pour moi, c'était quelque chose de à la fois étonnant, mais d'intéressant. Intéressant de comprendre que on n'est pas complètement captif de ce que moi j'ai décrit dans mon livre, l'État racial intégral. En fait, il y a toujours une liberté. Et ça, c'est bien. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de garder un peu l'espoir.
Bah, c'est un peu pour ça que vous avez écrit ce livre. C'est un peu pour ça que
j'ai écrit ce livre. Ça veut dire qu'en fait, non seulement on peut échapper aux idéologies d'État, non seulement on peut y échapper, mais on peut aussi entrevoir des formes d'alliance avec d'autres classes populaires qui, elles, subissent le racisme.
Alors, on va y venir, parce que ça, c'est la deuxième partie de votre livre. Mais je voulais juste revenir sur... ce sera en guise d'introduction à cette question, puisque vous avez mis en regard, là, à travers les Gilets jaunes, la question sociale et la question raciale, pour aller vite. Et effectivement, ce qui a primé au moment des Gilets jaunes, c'était la question sociale. Il y a eu un article dans Le Monde diplomatique en janvier 2021 signé par Gérard Noiriel et Stéphane Beau, sociologues, qui a fait beaucoup polémique. Je les cite, ils écrivaient qu'en France, depuis une quinzaine d'années, la dénonciation publique des crimes racistes ou de faits nourrissant des suspicions de discrimination raciale prend dans les médias la forme d'affaires raciales qui s'auto-alimentent sans fin. Puis ils citent deux pétitions concurrentes qui ont été publiées, l'une dans Mediapart, Manifeste pour une République française antiraciste et décolonialisée, signée par 57 intellectuels en juillet 2020, puis l'hebdomadaire a riposté en publiant un appel contre la racialisation de la question sociale, signé par 80 personnalités et une vingtaine d'organisations. Et à la fin de leur article, Noiriel et Beau concluent leur propos en avançant que les coups de force identitaires, ultra-minoritaires, selon eux, finissent par opposer les forces de gauche, ce qui ouvre un véritable boulevard aux conservateurs. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là de la mise en avant de la question identitaire qui viendrait concurrencer, rivaliser avec la question sociale? Vous dites non, elles sont compatibles.
Alors d'abord, je connais évidemment ce discours par cœur. C'est celui qui nous est opposé depuis des années, comme si c'était nous qui étions les producteurs de la race. Encore une fois, quand on comprend que la race est une production de l'histoire et des États, et notamment de la bourgeoisie capitaliste, c'est un peu difficile de mettre ça sur le dos de minoritaires en plus qui n'ont aucun pouvoir. D'abord, il faut aussi savoir que c'est aussi un argument qu'on a opposé aux femmes et aux féministes. Lorsqu'elles ont mis en avant l'existence d'un patriarcat dont les hommes étaient les bénéficiaires, on a dit « mais vous montez les hommes contre les femmes ». Alors qu'elles n'ont cessé de répondre qu'on met en cause un système qui produit des masculinités et des féminités, ce qui est très différent. Donc évidemment, je m'oppose à cette accusation qui consiste à dire qu'il y aurait une racialisation de la part de ceux qui combattent le racisme. Et j'ajoute que la race est une question sociale. Je suis désolée, ce n'est pas une question suspendue en l'air qui serait une question identitaire. En plus, même la question identitaire, je ne la comprends pas, puisque les personnes qui sont, disons, discriminées racialement, ce que nous, on met en avant, ce n'est pas tellement une identité, mais un statut. Le statut de discriminé n'est pas en rapport avec une identité. Ceux qui sont discriminés en France, ce sont les Antillais, les Africains, les Maghrébins, par exemple. Prenons ces catégories. Ou les Roms. Quel est le rapport, quel est le lien identitaire entre les quatre? Entre ceux qui viennent d'Afrique noire, par exemple, ceux qui viennent d'Afrique du Nord, qui parlent arabe, et d'autres qui parlent plein de langues différentes lorsqu'ils viennent d'Afrique subsaharienne. Les Antillais, qui parlent le créole. Les Roms qui parlent, je ne sais pas quel, en tout cas le français, mais en tout cas qui ont des modes de vie qui ne sont pas reconnus par, disons, les normes de l'État-nation. Eh bien, il n'y a rien qui les lie identitairement, si ce n'est un statut. Alors c'est pour ça que cette manière de faire dériver la dénonciation du racisme qui crée des subjectivités et des statuts, la faire dériver vers une question identitaire, c'est pas nous qui le faisons non plus. Nous, on ne fait pas ça.
Mais le mot race ne porte pas en lui cette tendance?
Non, la race, c'est la réduction à un statut.
Mais vous admettez qu'il faut quand même, pour vous suivre, il faut accepter cette définition préliminaire qui est pas...
Bien sûr,
mais moi... Qui est la vôtre. Et du coup, je ne sais pas si c'est... au-delà de la pertinence ou non, je ne sais pas si c'est le terme le plus audible, en fait.
Mais c'est pour ça que je distinguais tout à l'heure la manière, le camp de Rokhaya Diallo de celui de Zemmour. Parce qu'il y a ceux qui pensent que la race est un produit de l'histoire, c'est le cas de Rokhaya Diallo et c'est notre cas à nous, qu'il faut combattre politiquement et notamment à travers l'État qui l'a produit, ou bien c'est un phénomène biologique et pérenne et quelque chose qui est lié à l'identité profonde et ontologique des gens. Ce qui n'est pas ma définition. Je ne crois pas qu'il y a quelque chose qui... Je ne crois pas qu'on puisse attribuer quelque chose de racial aux Africains, par exemple. Une définition, je ne saurais pas ce que ce serait. L'identité, par exemple, des Africains qui serait quelque chose de racial. Je ne sais pas ce que c'est, en fait.
Très bien. Mais c'est quand même le terme de race qui vient, quoi.
Le mot race, c'est juste un mot objectif pour définir ou déterminer...
Le stigmate en lui-même.
Un phénomène objectif.
Oui.
Pour moi, il n'est pas connoté a priori. Il a été connoté dans la longue histoire du colonialisme, c'est-à-dire qu'en fait, on a réduit des gens à leur couleur de peau, on a biologisé la race, mais donc ça, il faut le dire, bien évidemment, et que c'est hautement problématique, mais ça, on croit qu'on est passé à une autre histoire après 1945. Nous disons, ce n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'on croit avoir dépassé le phénomène de la racialisation. Au siècle dernier, c'était par la biologie, aujourd'hui, c'est par le culturel. Aujourd'hui, quand on l'islamophobie, c'est une forme de racialisation. Ça n'est pas par le biologique, mais c'est par le culturel. Il n'en reste pas moins que ça produit des effets, puisque les musulmans sont discriminés.
Très bien.
Donc on n'a pas c'est-à-dire qu'on n'a pas dépassé un phénomène qu'on croit avoir combattu. Et il suffirait, selon nos détracteurs, de ne plus utiliser le mot. Or, je redis, les discriminations, elles existent. Donc, il faut bien simplement comprendre socialement ce qu'est ce phénomène. Il faut lui donner un nom.
Alors, vous essayez d'ailleurs de le comprendre, ce phénomène. Il y a un des chapitres qui s'appelle « Les mains sales » dans votre livre, où vous essayez de rentrer dans la logique raciale, raciste. Et à cet égard, c'est un peu étonnant de vous lire. Si on vous lit vite, c'est un peu étonnant, parce qu'on croirait parfois entendre Renaud Camus ou Éric Zemmour quand on vous lit, voire même Jean-Marie Le Pen qui est cité en exergue à certains moments et sans contradiction directe. Vous ironisez, comme Zemmour, sur la faiblesse de l'argument massue employé par certains, le fameux pas d'amalgame. Vous conspuez l'Europe technocrate, on y reviendra. Vous rappelez le rôle des patrons qui faisaient pression à la fin du 19e siècle pour imposer le droit du sol afin de recruter des ouvriers à moindre coût, etc., etc. Et en fait, factuellement, vous rejoignez beaucoup des analyses faites par vos adversaires idéologiques, Alain Soral notamment. À partir de ce constat identique, j'en ai cité quelques exemples, j'aurais pu en citer d'autres, qu'est-ce qui vous distingue ensuite de Alain Soral, par exemple, dont vous reconnaissez le mérite d'avoir identifié les vrais problèmes, à savoir les complexes que pouvaient éprouver les masculinités subalternes, etc.
Alors d'abord, je commence par dire que je ne rejoins jamais Soral.
Non, vous ne rejoignez jamais.
Je ne le rejoins jamais.
Parce que dans certains comptes rendus de votre livre, c'est pas...
Alors, ce que disent les autres...
C'est pas très honnêtement rapporté.
Pas très honnêtement rapporté. Je ne rejoins jamais Soral. Je dis qu'il a su créer une convergence entre deux catégories de la population qui ne se rejoignent pas.
Entre les beaufs et barbares.
Entre les beaufs et les barbares. Donc ça, c'est un constat. C'est un constat. Il l'a fait. Et moi, ce qui m'intéresse, parce que précisément, je suis en totale opposition avec sa politique et son idéologie, je cherche à savoir qu'est-ce qui fait qu'il a réussi à attirer l'attention de populations qui s'opposent dans la vie sociale, à savoir les blancs, les petits blancs, les beaufs et les barbares, donc les petits blancs et les populations issues de l'immigration postcoloniale, et en particulier les hommes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de décortiquer un phénomène pour ensuite l'analyser. Et l'analyser pour quoi faire ? Bah, pour savoir qu'est-ce qu'on peut lui opposer. Mais encore faut-il le regarder en face. Mmh. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est précisément que je ne fuis pas le phénomène Soral, je prends les taureaux par les cornes, j'essaie de savoir qu'est-ce qui effectivement attire tant les hommes de ces deux communautés que rien, ne lie. Et je m'aperçois effectivement qu'ils sont attirés par une définition, une certaine définition du nationaliste. Ça veut dire qu'en fait, il joue sur la fibre nationaliste, il joue sur la fibre antisémite et il joue sur la fibre masculiniste. Donc à chaque fois, des affects qui sont très négatifs. Très négatifs. Et moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour arracher ces populations que moi, je crois devoir attirer vers un projet de justice sociale, un projet qui soit effectivement, qui puisse en tout cas définir qui est l'ennemi des classes populaires, le véritable ennemi des classes populaires, qui pour moi, ça ne peut pas être... alors,
pour vous, c'est l'Union européenne, vous le dites.
Alors, non. Moi, très exactement, mon ennemi, c'est l'État capitaliste dominé par la bourgeoisie.
Auquel l'Union européenne voilà. donne un tour de vis supplémentaire.
Absolument. Et donc, effectivement, au niveau européen, c'est effectivement l'Union européenne est un ennemi. Donc, vous voyez bien que mon ennemi, ce n'est pas des individus, ce n'est pas des catégories...
non, jamais.
Voilà, ce n'est pas ça. C'est vraiment des institutions, des pouvoirs, etc., etc. Voilà, donc c'est ça mon ennemi. Et moi, ce que j'espère pouvoir faire, parce qu'en fait, dans la proposition de Soral, soit l'ennemi, ce sont les Juifs, soit l'ennemi, ce sont... Alors, les mondialistes, on ne sait jamais trop qui c'est, parce que en fait, dans le vocabulaire un peu conspirationniste, on ne sait jamais trop qui c'est, alors que dans notre vocabulaire, bah, c'est très clair que c'est la classe des capitalistes, par exemple. C'est extrêmement clair. Donc voilà, donc moi, j'essaie de savoir qu'est-ce qui... dans ces affects extrêmement négatifs, qu'est-ce qu'on peut faire pour détourner les gens du soralisme, de l'extrême droite, etc., etc.
Il y a quand même un de ces affects que vous jugez négatif que vous entendez bien mobiliser, même si c'est de façon transitoire. C'est le sentiment d'appartenance nationale.
Tout à fait, parce que justement, mon approche, c'est d'essayer de comprendre ce qui, dans le nationalisme, est à sauver, ce qu'on peut sauver dans le nationalisme, en fait. Et il me semble qu'il y a des besoins qu'il faut entendre. Il faut entendre le besoin de se sentir protégé. Il faut entendre le besoin d'avoir, dans un monde effectivement qu'on n'arrive plus à lire, qui est angoissant, dans la mondialisation effectivement, on ne sait pas où on va, on est tous plus ou moins déracinés, on perd ce qu'on appelle, je sais pas, nos valeurs traditionnelles, etc., etc. Je pense. Être en capacité, avoir assez d'empathie pour comprendre qu'il y a quelque chose dans le nationalisme que moi j'aborde. Je n'aime pas le nationalisme, mais il se trouve que je peux comprendre que dans le nationalisme, il y a une dimension qu'on peut comprendre, c'est-à-dire le besoin de protection, par exemple, tout simplement. Eh bien ça, moi je le comprends. Et pour moi, ça n'est pas négatif que de reconnaître que c'est normal de vouloir être protégé, par exemple. Bon, ben ça, c'est pas un problème. De la même manière que je m'interdis de penser que les symboles par exemple, qui font la nation, par exemple le drapeau bleu-blanc-rouge, je m'interdis de penser que sa signification, elle est figée dans le temps et qu'elle ne peut être finalement récupérée que par l'extrême droite. Par exemple, le symbole bleu-blanc-rouge, je pense qu'il a aussi une généalogie qui vient de la Révolution française. Donc en réalité, qui décide du contenu et du sens du drapeau, eh bien, c'est aussi les forces politiques.
C'est comme pour le mot race, finalement.
C'est... Non, parce que...
Non, je veux dire, on peut l'investir de valeurs différentes de ce qui était le cas jusqu'à présent, pour le drapeau comme pour le mot race.
Non, parce que le mot race, dans notre vision, la race est quelque chose comme la classe, qu'il faut abolir, qu'il faut absolument dépasser. Là, je ne suis pas d'accord. Là, le mot race, pour moi, c'est vraiment, pour moi je n'ai aucun attachement au mot race. Pour moi, il me sert à définir une situation concrète dans des rapports politiques concrets qui sont des rapports d'exploitation. La race, il faut l'abolir, il faut s'en débarrasser pour accéder à l'humanité générique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que nous puissions tous appartenir à la même humanité. Et c'est la race qui nous empêche d'accéder à ce que moi je pourrais appeler une fraternité, par exemple. Une fraternité entre blancs et non-blancs. C'est la race qui nous en empêche, donc il faut absolument la dépasser. La nation, bien, moi je dis, évidemment, il faut la dépasser également, puisqu'en fait la nation, elle crée des frontières entre les peuples. Donc oui, moi ça m'intéresse de dépasser le phénomène national. Il n'en reste pas moins qu'on peut comprendre, encore une fois, ce qui, dans le nationalisme, rassure. Eh bien, cette dimension-là, moi, je pense qu'il faut l'accepter, qu'il faut la reconnaître, et il faut même la reconnaître comme étant légitime. Que les petits blancs, que ce que j'appelle dans mon livre, entre mille guillemets, les beaufs, parce que le mot beauf n'est pas de moi. Eh bien,
oui, comme le mot barbare, comme vous le dites mot barbare, dès le début du livre.
Eh bien, que les beaufs soient attachés au drapeau, je sais que c'est pour des raisons, que la plupart des raisons sont négatives, puisque je rappelle que l'État-nation auquel ils sont attachés est un État-nation impérialiste et raciste. Donc moi, je ne vais pas aller dans leur sens. Mais à l'intérieur, mais dans l'ensemble, à l'intérieur de cette définition de la nation, il y a des choses qu'il faut pouvoir entendre. Et moi, je veux entendre le fait que les gens ont besoin de sécurité, ont besoin simplement d'avoir un refuge, quelque chose qui leur parle et qui les protège. Et bien, à partir de là, je dis que ça, c'est pour ça que j'ai appelé ce moment de mon livre « Les mains sales », parce qu'effectivement, on est obligé de se salir les mains au sens où on est confronté à un phénomène qui est extrêmement ambivalent, le nationalisme. Donc, ce n'est pas quelque chose de propre. Mais là-dedans, j'essaye de réfléchir sur ce qui est à sauver, mais à partir de là, réinvestir ces notions pour les réaffilier, à mon sens, à une histoire qui existe et qui est beaucoup plus glorieuse, qui est celle des luttes, qui est celle de la Révolution française, qui est celle de la Commune, etc. etc. Il n'y a pas de problème pour moi. Les gens qui font l'histoire de ce pays ne sont pas simplement des grands amiraux, des grands capitaines ou des généraux d'armée, des colonialistes. Ce sont aussi des gens qui ont participé à la lutte et à la lutte pour améliorer leur sort, à la lutte des classes notamment, mais pas que. Et bien ça, moi je pense que la réaffiliation de la catégorie classe populaire de France à une histoire qui est celle des luttes, celle de la Révolution, celle de la Commune, et bien ça, je trouve ça intéressant. Et d'ailleurs, je rends hommage dans mon livre à tous ceux qui, au Parti communiste par exemple, je veux dire, je ne parle pas simplement de l'histoire ancienne, mais l'histoire beaucoup plus récente, qui ont su soutenir les luttes anticoloniales, qui ont su les porteurs de valises, ceux qui soutiennent les immigrés, les sans-papiers, etc., etc. Bon, ben voilà, il y a une autre histoire de la France qu'on ne peut pas complètement plaquer à celle de la domination et de la colonisation.
Oui, mais je voudrais quand même revenir sur cette histoire d'alliance stratégique entre Beauf et Barbare, ce fameux pari du nous. Donc c'est dans la deuxième partie du livre. Je vais résumer votre propos et ensuite vous poser une question et vous me direz si j'ai mal résumé.
D'accord.
Vous proposez une alliance, un nous entre Beauf et Barbare, blanc et non blanc selon vos termes, sous la bannière de la souveraineté nationale, donc notamment contre l'Europe, l'Union européenne. Mais ce n'est qu'une alliance tactique, une étape transitoire, puisqu'il s'agit ensuite, dans un second temps, d'abolir, vous l'avez dit, de dépasser la nation, autrement dit, de mettre au placard la cause même qui a justifié ce rassemblement. Est-ce que ça ne ressemble pas un peu à un jeu de dupes, quand même ? Vous leur proposez de se rejoindre pour une cause qu'ensuite, dans un second temps, il s'agira d'abolir, de dépasser, de laisser derrière soi ?
Alors d'abord, je fais une petite correction, je ne parle pas de souveraineté nationale. Je parle de souveraineté populaire.
C'est vrai.
Voilà, donc ça c'est quand même important.
Mais quand même, vous dites, il faut, factuellement, il faudra en passer par l'échelon de l'État-nation.
Il faut revenir à l'échelon de l'État-nation, parce que vous et moi, on n'en connaît pas d'autres. Donc à un moment donné, il faut être juste un peu réaliste. Si on revient quelque part, c'est dans l'État-nation. Non pas que j'aime l'État-nation, c'est juste que je considère que l'Union européenne est un espèce de super État-nation. Alors, mon problème d'abord avec l'Europe, pour comprendre pourquoi je veux revenir à l'État-nation, parce que sinon on ne comprend pas. Je n'aime pas les États-nations. Impérialistes, ça c'est une réalité et ce n'est pas contradictoire avec ce qui arrive. Je dis que l'Europe étant un espèce d'État, un super État-nation, qui a un certain nombre de défauts, le premier c'est de poursuivre le projet impérialiste. Donc en fait, il n'y a pas moins d'impérialisme avec l'Europe, il y en a plus.
Elle renforce le racisme.
L'Europe renforce le racisme.
Elle se fait au détriment du pacte social.
Tout à fait, etc. etc. Donc moi qui suis anti-impérialiste, et le mouvement décolonial est toujours anti-impérialiste, c'est sa colonne vertébrale, donc moi, je ne vais pas soutenir un projet impérialiste. Donc ça, déjà, premièrement. Deuxièmement, c'est aussi le lieu où les bourgeoisies nationales se sont alliées pour devenir plus forte. Donc j'imagine que si elles ont, à la fin, au moment des indépendances africaines, c'est-à-dire dans les années 60, de 45, 60, 70 en fait, pendant ce processus, précisément parce que les luttes d'indépendance africaines ont affaibli les États-nations capitalistes, eh bien les bourgeoisies de ces États-nations ont décidé de s'allier à l'échelle européenne précisément pour ne pas perdre leur influence et leur hégémonie sur le monde. En fait, le tiers-monde leur échappait, elles se sont reconstituées pour faire en sorte que au contraire, de ne pas perdre leur hégémonie sur le monde. Mmh. Et ça s'appelle l'Union européenne. Donc, si les bourgeoisies des États-nations ont considéré qu'il fallait s'allier à l'échelle européenne, ça veut bien dire qu'ils sont plus forts à l'échelle européenne pour dominer. Donc moi, qui, depuis le départ, vous dis qu'il faut combattre les bourgeoisies nationales qui dominent les États-ratios, eh bien, de mon point de vue, ils sont plus faibles lorsqu'ils retournent à l'échelle nationale. C'est-à-dire que si on sort de l'Europe, eh bien, d'une certaine manière, on affaiblit les régimes politiques de chaque État-nation.
Oui, d'accord. Bon. Mais vous voulez
mais je reviens, parce qu'en fait, c'est un programme, si vous voulez, d'abord sur le long terme, et ensuite, qui nécessite effectivement une espèce de gymnastique de l'esprit, parce qu'en fait, pour moi, c'est un retour qui est dynamique. Il faut revenir à l'État-nation pour mieux combattre l'État-nation. Pourquoi ? Parce que...
Oui, mais c'est quand même là que ça commence à devenir retors, quoi.
Non, parce que... Non, je vais vous dire pourquoi, mais parce que là où on est, avec l'Europe, les classes populaires, dont je fais partie, eh bien, n'ont plus aucun pouvoir. Ça veut dire que l'État européen, enfin l'Europe telle qu'elle existe, elle est complètement, mais je dis bien complètement antidémocratique. Et en fait, elle est, d'une certaine manière, elle est irréformable de ce point de vue-là.
Oui, mais donc, ça, en fait, oui, tous les souverainistes le disent jusqu'à présent, vous êtes d'accord avec tous les souverainistes ?
Mais oui, je suis d'accord, simplement.
Il y a un moment, vous allez plus être d'accord une fois que ça va être acté.
Mais parce que soit on pense que le projet souverainiste est le seul qui peut exister, soit on pense qu'il y a d'autres projets qui peuvent affronter le projet souverainiste. Eh bien, dans le cadre de l'État-nation, la proposition du mouvement décolonial, c'est sûrement pas de défendre, parce qu'un projet souverainiste ne fait que défendre, au final, les intérêts de la bourgeoisie en place. Eh bien, le retour, pour moi, j'ai bien parlé tout à l'heure de souveraineté populaire, il s'agit, pour moi, de revenir à un cadre qui nous permette de récupérer du pouvoir, c'est-à-dire ne serait-ce qu'un pouvoir d'agir sur nos institutions, n'importe quoi, un pouvoir de mobilisation, c'est un pouvoir qui fasse qu'il y ait quelque chose qui ressemble à un pouvoir populaire qui puisse faire en sorte de proposer un projet alternatif, évidemment, parce que ce qui compte, c'est le projet. Et pour moi, le projet, il est quoi ? Il est, un, de continuer le démantèlement de l'impérialisme, créer des alliances avec les peuples du Sud, créer même des alliances à l'intérieur même des États-nations, puisqu'en fait, il y a à l'intérieur des États-nations des régions qui elles-mêmes cherchent un peu plus d'autonomie. Elles-mêmes. Je pense à l'Alsace, je pense à la Bretagne, je pense à l'Occitanie, etc. etc. Il y a des mouvements qui eux-mêmes, à l'intérieur de la France, pour ne prendre que cet exemple-là, cherche plus d'autonomie par rapport à l'État-nation et le conteste. Eh bien, là, il y a aussi une problématique que moi, je sais, que je n'ignore pas, c'est qu'il y a, dans les régions, des souverainistes de droite et des nationalistes de gauche, c'est-à-dire des gens qui veulent un peu plus d'autonomie pour, disons, sauver ce qu'ils estiment être leur culture ou leur langue ou leur tradition, mais qui proposent soit un nationalisme de droite, soit un nationalisme de gauche. Eh bien, dans ce cadre-là, nous avons déjà pensé dans le mouvement décolonial, on a déjà réfléchi à cette question, et nous avons mis en avant l'idée d'internationalisme domestique. Et c'est quoi l'internationalisme domestique ? C'est précisément reconnaître les traditions, les coutumes des régions, et de reconnaître aussi la légitimité de leurs leaders, des groupes qui s'en revendiquent pour dire, bah oui, ils ont tout à fait raison de refuser l'écrasement de l'État-nation.
Il me semble pas que vous en parlez de l'internationalisme domestique dans le livre.
Pas dans ce livre, mais j'en parle dans d'autres textes. Oui.
Mais alors, que deviennent ceux qui, mettons en France ou n'importe quel autre membre d'un État-nation, ceux qui ne sont pas attachés à l'identité régionale, etc., mais qui sont attachés à leur identité nationale ? Eux, ils n'ont pas voix au chapitre.
Bah si, ils ont le droit, parce qu'en fait, dans la France, vous mettez ce que vous voulez. Je veux dire, là aussi, il ne s'agit pas d'avoir une définition figée de ce qu'est la francité. Un militant d'extrême gauche qui...
Oui, mais dans la mesure où vous voulez abolir la nation, remettre les régions ou les différentes identités domestiques, pour reprendre votre expression...
Alors, c'est pas tant le sentiment national. Je veux dire, moi, j'ai aucun problème avec quelqu'un qui se sent français. Pas du tout, je le suis moi-même. Moi-même, d'ailleurs, je vais vous dire un truc, je n'ai pas d'autre identité que l'identité française. Je n'ai pas d'identité régionale ni quoi que ce soit. Moi, je n'ai pas de problème avec l'identité, avec le sentiment d'appartenir à un groupe ou à une nation. J'ai un problème avec le fait que le sentiment national est instrumentalisé par des bourgeoisies à leur profit. Moi, j'ai pas de problème avec les cultures nationales, avec la langue française, avec, avec une identité qui est française. Toutes les identités sont des produits de l'histoire et sont des constructions. Donc, personne ne s'accordera jamais pour vraiment définir ce qu'est le sentiment national français. Mais ceux qui s'en revendiquent, je les respecte. C'est pas, moi, c'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce qu'on va rompre l'association de cette identité avec l'impérialisme ? Est-ce qu'on va mettre fin à cette articulation ? Moi, ma conscience politique me dit que si la France et si les Français veulent réintégrer l'humanité générique, il faut qu'ils arrêtent d'être des impérialistes. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, l'État-nation aujourd'hui français, celui qui est dirigé par la bourgeoisie dont je vous parle depuis tout à l'heure, lui, il instrumentalise le sentiment national contre les peuples qu'il domine. Eh bien, c'est à cette relation que je veux mettre fin. Ensuite, que les Français se sentent français, il n'y a rien de plus légitime que ça. Je veux dire, je n'ai pas de problème avec ça. J'ai un problème avec les structures impérialistes de cette identité.
Alors, ça demande quand même une certaine gymnastique intellectuelle, comme vous dites, parce que,
absolument,
effectivement, c'est...
C'est pour ça qu'on ne peut pas être confondu avec les souverainistes dont vous parlez, qui cherchent simplement à revenir à l'échelle nationale et simplement à ce que la France reste une puissance, la puissance qu'elle est. C'est ça. Moi, je suis évidemment en contradiction avec ça.
Alors, très bien. Mais du coup, ça m'amène à une autre question. Qui reste à côté de vous, du coup, parce que vous êtes assez sévère avec la gauche, que vous critiquez assez longuement. Vous avez rappelé l'histoire de la gauche, son oscillation entre internationalisme et nationalisme. Je lis quelques lignes de vous, page 223, où vous égrenez différentes nuances de gauche dont aucune ne vous satisfait. Lorsque la gauche est internationaliste, elle ne comprend pas le besoin de nation et partant de sécurité. Lorsqu'elle est républicaine et universaliste, elle ne comprend pas le besoin identitaire et religieux. Lorsqu'elle est antifasciste, elle ne comprend pas les conséquences préjudiciables de la différence de traitement par l'État entre l'antisémitisme et les autres racismes. Et lorsqu'elle est féministe, elle ne comprend pas l'oppression des masculinités non hégémoniques, vous en avez parlé tout à l'heure, qu'elles soient blanches ou non blanches. Mais alors, si on vous écoute, autant quitter la gauche, autant changer de camp, enfin, ok, il reste plus grand monde à vos côtés. Bah, pas même les souverainistes.
Alors moi, je n'ai rien à quitter puisque je ne suis pas de gauche.
Bon, très bien. Donc, mais alors, qui sont vos alliés ?
Depuis la naissance du mouvement décolonial en France, on a, depuis le départ, identifié la gauche comme étant blanche. Donc la gauche dont vous parlez,
vous dites voter, c'est voter blanc.
C'est la gauche blanche. C'est-à-dire qu'en fait, la gauche blanche, je répète la cohérence de mon propos depuis le départ, elle vient de la longue histoire de la construction de l'État racial intégral. Donc elle est à son image. Elle a accepté dans les grandes lignes, parce que je réserve un moment pour l'extrême gauche dont je dis qu'elle est la moins blanche, mais en gros, grosso modo, elle a accepté le deal, le pacte racial et donc le pacte impérialiste. Donc précisément, je ne peux pas avoir des atomes crochus, moi personnellement, avec cette gauche-là. D'accord ? En revanche, je suis une militante et je ne crois pas aux choses qui sont figées. Je ne crois pas, je crois que la gauche, elle peut se transformer. Je pense que la gauche, elle a été dans son histoire, elle a pu être dans son histoire anti-impérialiste. À certains moments, elle a été beaucoup dans les années 60 et 70. Elle l'est beaucoup moins aujourd'hui, elle peut le redevenir. Mais tout dépend de notre capacité à la transformer, évidemment. Parce que j'ajoute que parce qu'on n'est pas des souverainistes, nous, nos alliances, on ne les envisage qu'avec la gauche, et qu'avec la gauche radicale.
Il y a une gauche souverainiste.
Alors là, par exemple, dites-moi.
Georges Kousmanovic. Après, vous êtes assez sévère également avec Michel Onfray, mais Michel Onfray, historiquement, se réclame de la gauche et se dit souverainiste.
Le problème, c'est que moi, je ne peux envisager d'alliance qu'avec une gauche. Alors, je ne sais pas, vraiment, je ne les connais pas suffisamment. Enfin, non, ce que je veux dire, c'est que la gauche, le mot gauche souverainiste, je ne connais pas suffisamment ce que ça implique pour vous dire si ou non je suis d'accord ou pas. Ce que je sais, c'est que moi, je vois très peu une alliance, par exemple, avec un Onfray, dont je vois très très bien la logique hyper européocentrique, hyper ethnocentrique et pas du tout anti-impérialiste. C'est-à-dire qu'en fait, la seule gauche avec laquelle je pourrais consentir ces formes d'alliance, elle est nécessairement anti-impérialiste. Vous voyez, il faut quand même revenir à l'essentiel de notre propos, c'est que nous, notre colonne vertébrale, c'est l'anti-impérialisme. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on n'admet pas, c'est la domination d'un État sur un autre État, ou d'un peuple sur un autre peuple. Ça, on ne l'admet pas. Je n'admets pas le système de la France-Afrique. Donc, toute gauche qui sera contre la France-Afrique, on sera d'accord, évidemment. On sera d'accord. Mais à ma connaissance, la gauche dont vous parlez, je ne l'entends pas sur ces questions éminemment importantes pour nous. Il ne s'agit pas pour moi de revenir...
Oh, je crois que Michel Onfray, typiquement, a été très critique vis-à-vis de toutes les ingérences qu'a faites l'État français ces dernières années. Toutes les guerres qu'il a entamées.
Tout en étant très islamophobe. Oui, le problème, c'est que nous, on est quand même exigeant vis-à-vis d'une ligne générale, parce que pour nous, on ne peut pas être antiraciste sans être anti-impérialiste, comme on ne peut pas être anti-impérialiste sans être antiraciste. Donc on ne peut pas jouer sur tous les tableaux. Il faut être anti-impérialiste et antiraciste. Tout ça fonctionne ensemble.
Très bien. Bon, ça reste un vaste programme et surtout, un chemin de crête très, très étroit.
Absolument, je suis d'accord avec vous.
Bonne chance et bon courage.
Merci.
Nous arrivons au terme de cet échange. Merci beaucoup, Ouria Boutedja. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Beauf et Barbare, le pari du nous, aux éditions La Fabrique. Vous trouverez toutes les références sur le site de l'émission et Spotify, où l'épisode ainsi que tous les autres peuvent être réécoutés à l'envi. Mot de passe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines, même jour, même heure.
Merci.
Merci.